Il était une fois une adorable petite fillette que tout le monde aimait rien qu'à la voir, et plus que tout sa grand-mère, qui ne savait que faire ni que donner comme cadeau à l'enfant. Une fois, elle lui donna un petit chaperon de velours rouge, et la fillette se trouva si jolie, il lui allait tellement bien qu'elle ne voulait plus porter autre chose et qu'on ne l'appela plus que le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Tiens, petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et une bouteille de vin. Tu iras les porter à ta grand-mère. Elle est malade et affaiblie, elle va bien se régaler. Vas-y tout de suite, avant qu'il ne fasse trop chaud, et sois bien sage en chemin et ne saute pas à droite ou à gauche pour aller tomber et me casser la bouteille de grand-mère, qui n'aurait plus rien. Et puis, dis bien bonjour en entrant et ne regarde pas d'abord dans tous les coins. » Le petit chaperon rouge s'en va. Il entre dans la forêt où habite la grand-mère. Elle rencontre le loup. Et le loup a une idée derrière la tête et il va dire la chose suivante au petit chaperon rouge. Toutes ces jolies fleurs dans les sous-bois, comment se fait-il que tu ne les regardes même pas, petit chaperon rouge? Et les oiseaux, on dirait que tu ne les entends pas chanter. Tu marches droit devant toi comme si tu allais à l'école, mais c'est pourtant rudement joli, la forêt. Petit chaperon rouge donna un coup d'œil alentour, évidencer les rayons du soleil entre les arbres, et puis partout, partout, des fleurs qui brillaient. Si j'en faisais un bouquet pour grand-mère, se dit-elle, cela lui ferait plaisir aussi, il est tôt et j'ai bien le temps d'en cueillir. Sans attendre, elle quitta le chemin pour entrer dans le sous-bois et cueillir des fleurs, une ici, l'autre là, mais la plus belle était toujours un peu plus loin, et encore plus loin dans l'intérieur de la forêt. Le loup, pendant ce temps, courait tout droit à la maison de la grand-mère et frappait à sa porte. Si vous connaissez la suite de l'histoire, vous savez que le fait que le petit chaperon rouge a désobéi à sa mère va entraîner tout un tas de difficultés pour elle-même et pour sa grand-mère. Je ne me suis pas trompé en prenant ma Bible ce matin. Et je vous propose qu'on lise quand même aussi un petit texte biblique qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 12, à partir des versets 20. Et peut-être puis-je vous demander de vous lever pendant la lecture en signe de respect pour cette parole. Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés pour prier à la fête. Ceux-là vinrent à Philippe, qui était originaire de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent « Monsieur, nous désirions voir Jésus. » Philippe vient le dire à André, puis André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé dans la terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera en vue de la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Or, je suis troublé. Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cela que je suis venu en cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel disant, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui l'avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus lui répondit, « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est faite entendre, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous à moi. » Il dit cela pour montrer de quelle mort il allait mourir. Alors la foule lui répondit, « Nous avons entendu de la loi que le Messie reste pour toujours. Comment dis-tu que le Fils de l'homme doit être élevé? Qui est ce Fils de l'homme ? Alors Jésus leur dit, « La lumière est encore en vous pour peu de temps. Marchez donc que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne s'emparent pas de vous. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir fils de lumière. » Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha d'eux. Vous pouvez vous asseoir. La dernière fois que nous avons ouvert l'évangile de Jean ensemble, je vous ai dit que le chapitre 12 était un chapitre de transition. Dans les chapitres qui précèdent, nous assistons à toute une série d'entretiens de Jésus avec la foule en général. Et nous avons vu que ces discussions s'enveniment peu à peu. Ça devient de plus en plus tendu, plus on avance dans le temps. Et puis, ce ministère public de Jésus a culminé en quelque sorte dans la résurrection de son ami Lazare, qui se trouve au chapitre 11 de l'Évangile. Et c'est ce miracle-là qui semble avoir convaincu les autorités religieuses qu'il faut en finir avec Jésus, qu'il faut l'assassiner. Au chapitre 12, nous avons vu que ça s'ouvre sur une scène un peu plus intime. Jésus est chez des amis, il se fait oindre par Marie. Et ce chapitre 12 est un peu, comme je vous ai dit, un chapitre de transition. Il y a encore des grands moments publics. Il y a ensuite cette entrée triomphale dans Jérusalem que Eric a évoqué tout à l'heure. Et puis, il y a ce discours de Jésus qui est son dernier discours public. Et après, il nous a dit, il s'en alla, il se cacha d'eux. Hein, Jésus se fait discret. Hein, la dernière semaine qui mène à la Passion, elle va être consacrée essentiellement à des échanges avec ses disciples. Il va essayer de les préparer pour les événements qui viennent. Et donc, les derniers chapitres de Jean qui mènent jusqu'à la Passion, auront un ton beaucoup plus intimiste, beaucoup moins polémique que ce que nous avons pu voir jusque-là. Notre texte s'ouvre sur une scène apparemment anodine. Il y a des Grecs qui veulent voir Jésus. Il y a des gens qui sollicitent une audience, pourrait-on dire, avec Jésus, et ce sont des Grecs. Alors, qui sont-ils? Selon toute vraisemblance, ce ne sont pas des Juifs de langue grecque. Mais ce sont des gens qui sont venus à Jérusalem pour la fête, pour la Pâque. Ce sont, selon toute vraisemblance, ceux qu'on appelle des craignants Dieu. C'est-à-dire des hommes qui étaient attirés par l'enseignement du judaïsme, qui fréquentaient éventuellement les synagogues, mais qui ne franchissaient pas le dernier pas. Ils restaient sympathisants, mais il ne se convertissait pas pleinement, il ne se faisait pas circoncire. J'ai connu personnellement un homme un peu comme ça, qui avait épousé une juive, qui était devenu très actif dans la communauté juive locale, mais qui n'arrivait pas à franchir ce dernier pas, avec quelques réticences à passer sous le scalpel du rabbin. Et c'est ce genre de personnage qu'on a là, des gens qui montent quand même à Jérusalem, sachant qu'ils ne pouvaient pas participer à la Pâque, réellement. Ils ne pouvaient même pas entrer partout dans le temple, ils devaient rester dans le parvis des païens. Mais ils sont là quand même, et ils prennent part à cette fête. Et quand ils veulent voir Jésus, la réaction de Jésus est étonnamment vive, parce que il va se lancer dans un grand discours, et il va d'abord dire « L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. » Et on se demande, mais quel est le lien, hein? Pourquoi cet événement-là, cette demande, qui ne semble pas si extraordinaire que ça, déclenche une telle réflexion de la part de Jésus? Je crois, pour le comprendre, il faut réaliser que, en fait, Jésus avait deux ministères, qu'il faut bien distinguer pour ne pas se tromper sur la nature de ses actes. Son premier ministère, dans le temps déjà, c'était un ministère de prédicateurs itinérants. Jésus s'est promené dans toute la Palestine pendant une certaine durée, plus d'un an, annonçant la bonne nouvelle. Et ce ministère-là était un ministère réservé au peuple juif seulement. Alors, je ne dis pas que ça ne débordait pas un petit peu ici ou là. Au chapitre 4 de notre évangile, nous avons vu Jésus en discussion avec la femme samaritaine. Les samaritains n'étaient pas des juifs, c'était en quelque sorte des demi-juifs. Et puis, vous avez peut-être aussi à l'esprit le fait que Jésus a guéri la fille de la femme syrophénicienne, ou encore le serviteur du centenaire romain. Donc ici et là, son ministère débordait un petit peu, mais c'est plutôt des exceptions qui confirment la règle. Et Jésus l'a fait savoir très clairement, il était venu en ce sens-là, pour le peuple juif uniquement. C'est pas lui qui allait enseigner l'évangile aux païens. Mais il y a un deuxième ministère de Jésus, et ce ministère est beaucoup plus important, bien sûr, c'est son ministère de rédempteur du monde. Jésus-Christ est mort à la croix pour tous. J'attirerai tous à moi, dit-il. Tous, ça veut dire des hommes de toute langue, de toute nation, de toute origine, de toute extraction sociale. Tout le monde est concerné. Et ce ministère-là, bien entendu, il n'est pas limité au peuple juif. Il est universel. Il vise tout le monde. Et c'est à la croix que son ministère, en quelque sorte, s'est généralisé. C'est après sa résurrection qu'il va charger les disciples d'aller partout dans le monde pour faire des disciples. Et c'est pour ça, je crois, que quand ces Grecs viennent à Jésus, quand ces gens-là qui ne sont pas visés par son ministère premier frappent à sa porte, que Jésus réalise que maintenant, ce deuxième ministère frappe à la porte, que maintenant, la croix est imminente, parce que c'est que par elle qu'il va pouvoir toucher ces gens-là. Et je crois, en tout cas, c'est pour cette raison-là que nous avons cette réaction quelque peu vive de Jésus quand cette demande vient à lui. Par la suite, on ne parle plus de ces Grecs. Les a-t-il vus? On ne sait pas. Je pense personnellement que non, parce que sans doute, la dernière semaine, il avait à la consacrer à ses disciples. Il n'avait sans doute pas du temps libre pour des consultations de ce genre. Mais il y aura dans notre texte aussi un mot pour ces Grecs. Nous allons le voir. Le discours s'ouvre sur un mot sur cette heure. L'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Et tout ce discours de Jésus tourne autour de ce concept. Je vais vous montrer quelque chose que je dois à un exégète catholique, Père Xavier Léon Dufour, un grand bonhomme à mes yeux, et qui a mis à jour la structure de ce récit. Et je ne peux pas affirmer que c'est la vérité, mais je trouve que c'est assez séduisant. Il dit le terme qui définit ce discours et qui domine ce discours de Havet, c'est cette notion de l'heure qui est venue. Et je vous ai fait ici un schéma qui illustre en fait cette structure de ce texte. Pour les spécialistes, on dira c'est en chiasme, c'est-à-dire ce sont des structures un peu du type A, B, B prime A. Si vous connaissez la poésie, vous êtes familier de ces choses-là. Et vous savez, effectivement, dans le texte, des mots-clés qui se renvoient. Il y a comme une parenthèse qui se ferme. La terre, le monde, le Père. Et tout est centré autour de cette notion de l'heure qui revient au verset 27 et qui est vraiment le cœur de ce discours. Alors, dans un premier temps, dans ce récit, vous savez, une tendance qui descend. Il est question de ce grain qui va descendre dans la terre pour mourir. Et ensuite, la dynamique est tout autre, tout va remonter. Et là, c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans le prologue de l'Évangile. Ceux qui étaient là il y a 13 ans, quand on a commencé notre étude de l'Évangile, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Ceux qui étaient là, vous savez que nous avons trouvé la même structure dans le prologue. Et c'est là une particularité de l'Évangile selon Jean, par rapport aux autres évangiles. c'est que Jean, il commence son évangile dans le lieu céleste. Pour Jean, Jésus est avant tout le Fils préexistant, qui est auprès de Dieu, qui est Dieu lui-même, et qui va se défaire de tout cela, et qui va descendre vers nous, hein, qui va devenir des nôtres, la parole est devenue chair, il va descendre jusqu'à la croix. Abaissement complet. Et ce moment de la croix, cette heure décisive, c'est en même temps le début de la glorification de Jésus. C'est l'heure de sa gloire. Et c'est là qu'il est élevé, d'abord physiquement, et puis il va monter. Et c'est tout le mouvement de la suite de l'Évangile, hein, cette remontée vers le Père. Hein. Et le Fils nous entraîne dans ce mouvement-là. Hein. Et vous voyez dans l'Évangile de Jean, plus que dans les autres Évangiles, qui commencent plutôt ici et qui montent. Hein. Vous voyez chez Jean, cette descente d'abord, et puis cette remontée vers le Père. Et tout se joue ici, dans cette heure-là. C'est l'heure de l'inversion du mouvement. Apparemment, il touche le fond. Il est tout bas. Il est méprisé de tous. Il est l'écume. Mais en réalité, c'est le mouvement de montée qui commence là. Et là où le diable pense qu'il a eu gain de cause, c'est le moment même de sa plus grande défaite. Et tout se joue dans cette heure-là. Alors vous allez me dire, il a belle théologie, mais ça fait une belle jambe aussi. Concrètement pour moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et je crois que ce texte est extrêmement intéressant pour nous aussi, de manière très pratique, parce que Jésus va parler de ses disciples, et il va nous dire ce qu'il attend de ses disciples. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perd, mais celui qui est sa vie dans ce monde la conservera en vue de la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, là où je suis, là sera aussi mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je ne sais pas si vous sentez, mais moi j'ai tout de suite, en lisant ce passage, pensé à un autre texte dans un autre évangile. Et je vous ai mis les deux ensemble parce que je crois que ces deux textes vont ensemble et se illuminent mutuellement et ensemble dégagent un enseignement d'une grande, grande force. Donc vous avez là ce texte de Jean et à côté un texte de Marc, chapitre 8, verset 34. Et ce texte-là se situe un petit peu en amont dans le ministère de Jésus, c'est avant qu'il aille à Jérusalem. Mais il dit quelque chose de très semblable. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, il la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Ça vous renvoie directement au verset 25. Car à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? En effet, que donnera un homme en échange pour sa vie? Il y a ici un enseignement de Jésus sur ce que c'est que pour lui est un disciple. Tout commence par la notion de service. Un disciple de Jésus est avant tout un serviteur de Jésus. Hein? Vous voyez très bien dans le chapitre 12, Jésus s'adresse, enfin il parle de son serviteur. Un disciple de Jésus, c'est un serviteur. C'est quelqu'un qui ne vient pas pour se faire servir par Jésus, mais quelqu'un qui veut lui-même servir le Seigneur. C'est là que se situe son attitude première. Et cette volonté de service entraîne autre chose, que nous voyons encore au verset 26, chez Jean. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Donc, le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui se met au service du Seigneur, et pour ce faire, il se met à suivre le Seigneur. Il y a une notion de Christ qui précède, et le disciple le suit à distance. Là où le Seigneur va, là aussi sera mon serviteur. Donc, le Seigneur s'attend à ce que ceux qui veulent être ses disciples soient à sa suite, s'engagent derrière lui, hein, marchent la route qu'il a marchée lui. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Si vous savez que le texte de Jean, vous pouvez dire, ben, il voulait dire que ce que ses disciples ont effectivement fait, c'est qu'ils se rendent au même endroit que Jésus. Éventuellement même, il y a une promesse qu'ils iront avec lui dans la maison du Père, parce que tout de suite, il enchaîne en parlant du Père. Mais ce qui est précieux dans la parole qui nous est rapportée dans l'évangile de Marc, c'est qu'il y a ici un lien avec la croix. Parce que là où le Fils va, et si vous avez compris cette logique, hein, là où le Fils va, les disciples vont aussi, y compris à la croix. Hein, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Et ça, c'est fort de Tava. Car celui qui veut sauver sa vie, il la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi. Le disciple du Christ est appelé à mourir. Et Bonhoeffer, le grand théologien allemand, qui est mort dans les geôles nazis, il a dit « Quand le Christ appelle quelqu'un à le suivre, il l'appelle à venir mourir. » Vous savez, la croix, nous, on n'a pas toujours la notion de ce que ça veut vraiment dire. Parce que nous vivons dans un monde peuplé de croix. Hein? Si vous allez sur un cimetière, il y a des croix en profusion. Vous allez au sommet d'une montagne, vous tombez sur une croix. Sur les églises, il y a des croix. Partout, il y a des croix. C'est banal. Vous avez une croix sur la poitrine de Madonna quand elle chante. Les top modèles portent des croix avec des diamants et de l'or. Et c'est très chic. Hein? Mais n'oublions pas que la croix, pour quelqu'un de l'époque de Jésus, c'était l'horreur absolue. C'était un instrument de torture de la pire espèce où on martyrisait les gens à mort, à petit feu. On mettait une certaine perfection à les humilier, à les écraser, à les broyer et à faire durer le spectacle. C'est ça la croix. Et quand Jésus dit, quand quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, c'était une parole des plus choquantes. Prendre sa croix, porter sa croix. Si vous voyez quelqu'un dans la rue porter sa croix, on savait où il allait. Il allait au lieu de son exécution. On l'obligeait même à porter encore sa croix. Donc Jésus lui dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus, pour Jésus, c'est accepter de mourir. Alors, certains sont morts physiquement. Bonhoeffer, que je vous ai cité tout à l'heure, en faisait partie. Mais tous ne sont pas nécessairement appelés à aller jusqu'à cette extrémité, bien entendu. Mais la vie de disciple, c'est une vie marquée par la mort. Le disciple doit mourir à lui-même. Il doit accepter de, comme dit Jésus, de perdre sa vie. Depuis la chute, nous sommes tous programmés autour de nous-mêmes. J'ai mes projets, je dois m'épanouir moi, j'ai mes rêves, je dois les poursuivre. Et notre société nous pousse dans ce sens. Le type du Christ doit se défaire de tout cela. Et il doit redevenir celui que Dieu a voulu qu'il soit quand il l'a créé. Celui qui n'est plus marqué par cette orientation vers lui-même, mais par cette orientation vers le Seigneur. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Redevenir un serviteur de Dieu et ne plus être un petit Dieu nous-mêmes. le... Comment dire ? Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se joue dans un instant. C'est une tâche de toute une vie. C'est la vie de disciple, cela. Et on a parfois critiqué les évangéliques, et je crois on avait raison de nous critiquer pour cela. On a parfois critiqué les évangéliques parce qu'ils ont une vision très, très ponctuelle de la conversion. Il faut faire la prière, Jésus entre dans mon cœur, et hop, c'est fait, et c'est bon. Et on passe au suivant. C'est pas pour critiquer, mais quand vous regardez le petit film qu'ont fait nos jeunes récemment, et qui, semble-t-il, a été primé, vous avez cette même caricature de la foi. C'est-à-dire, ce jeune homme dans le film, il vit un certain nombre de péripéties qui, finalement, l'amènent à accepter, il est Bible en main, il est à genoux, il entre dans la petite porte, et hop, c'est fait. Et c'est un peu comme dans les contes de fées, on dit voilà, et il se mariait, il a eu beaucoup d'enfants. Super. Mais je dis, c'est là que ça commence. Et quand ils sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants, les problèmes surgissent. Et je veux voir cette histoire-là aussi. Et j'étais très reconnaissant à François, à son témoignage récemment. J'espère que vous avez eu l'occasion de l'entendre, de le lire, parce que il nous a fait redécouvrir, d'une certaine manière, que c'est compliqué, la conversion. Et que ça dure toute une vie. Et à moins que vous vous fassiez renverser par une voiture 5 minutes après votre prière de la foi, ce n'est pas fini. La vie chrétienne continue, la conversion continue, et c'est le travail de toute une vie auquel vous êtes conviés en vous conformant à cela. Vous savez, ça ne suffit pas de venir à l'église le dimanche matin. Ça ne suffit pas de faire de belles prières, de chanter magnifiquement bien. Ça ne suffit pas de faire de belles paroles depuis la chair. Si votre vie se limite à ça, vous n'y êtes pas. Non, Jésus a toute une toute autre vision de ce que c'est la vie éternelle et il nous invite à nous engager toute une vie durant dans ce cheminement-là qui est tout sauf facile. Mais qui doit être notre chemin si nous voulons être des disciples. Je vous ai parlé tout à l'heure du petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge qui désobéit à sa mère et qui se trouve séduit par le loup et qui se perd dans la forêt. Pendant ce temps-là, le loup fait son heure aux finesses. Et je me suis dit, peut-être parfois nous sommes un peu comme le petit chaperon rouge. Vous savez, on est parti dans la vie chrétienne, on a pris notre croix sur nous, à un moment donné, on s'est engagé à la suite du maître, avec entrain, et puis la vie étant ce qu'elle est, ma foi, les fleurs étaient si belles, et puis la croix est un peu lourde, qu'on l'a posée. Et puis, voilà, on a fait un bouquet pour grand-mère, et on s'est arrêté. Ça peut arriver, peut-être ça vous est arrivé. À ce moment-là, n'oubliez pas cette parole-là, qui est toujours d'actualité. Le Christ nous appelle toujours, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc peut-être est-il temps de revenir à cette parole, de nous laisser saisir à nouveau, de nous dire, finalement, ce que je fais, c'est pas ce à quoi je suis appelé. Il faut que je reprenne cette croix et que je me remette à le suivre là où il veut que j'aille. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie ? En effet, que donnera un homme en échange pour sa vie.